Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ouais, oui, tiens. Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, je vais vous parler de super-héros pas vraiment héroïques. Aujourd'hui, je vais vous parler de Watchmen. Watchmen est une bande dessinée parue en 12 épisodes de septembre 1986 à octobre 1987. Et je vais tout de suite mettre un terme au débat entre BD et roman graphique. Le terme roman graphique est un néologisme apparu dans les années 70 et qui donne un pseudo-air intello à des personnes qui lisent des BD et qui pensent que ces dernières ne sont que des trucs pour un public infantile. Un peu comme certains dessins animés. Bon, ça, c'est fait. Watchmen, c'est une BD que l'on doit à Alan Moore pour le scénario, Dave Gibbons pour le dessin et John Higgins pour la mise en couleur. Avant de parler de l'œuvre, je vais vous parler un peu d'Alan Moore. Pour bien appréhender cette BD, je pense que connaître un peu mieux son créateur est nécessaire. Alan est né le 18 novembre 1953 à Northampton, en Angleterre. Sa famille très modeste vit dans un quartier défavorisé. Soucieux de la faire grimper à l'échelle sociale et ainsi accéder à une meilleure vie, ses parents le poussent à lire beaucoup, et c'est ce qu'il va faire. À 5 ans, il s'inscrit à la bibliothèque municipale et dévore tout ce qu'il trouve, avec un penchant pour la fantasy. Il va rapidement découvrir les premiers comics, d'abord anglais et par la suite américains. Ceux-ci mettent surtout en avant les aventures de super-héros à milieu des comics anglais plus terre-à-terre. Côté scolarité, ça se passe bien. Au début. Poussé par ses parents, il se cultive plus que ses petits camarades et il est donc parmi les meilleurs de sa classe, et va donc logiquement passer dans le secondaire. Alors autant il était le meilleur dans la classe précédente, autant là, la chute est raide. Et il le dira plus tard, il n'était pas particulièrement doué, mais seulement moins idiot que les autres de sa classe. Donc non seulement il n'est pas un génie, mais... Et c'est peut-être surtout ça, il vient d'un milieu populaire et modeste. Et ça, les autres vont lui faire comprendre, eux qui ont pu bénéficier de soutien scolaire. Il découvre ainsi très jeune la lutte des classes à son petit niveau, ce qui va le dégoûter du système scolaire et plus tard de la société en général. Il découvre aussi la drogue, cannabis et LSD, ce qui lui vaudra d'être renvoyé du lycée. Alan va alors vivoter de petits boulots tout en essayant de placer ses premiers dessins. Il fonde le magazine Embryo et découvre le Laboratoire d'Art, une comité artistique locale qui promeut la création. Alan dira avoir beaucoup appris dans cet endroit. C'est au début des années 80 qu'il parvint enfin à vivre de sa plume, et que conscient de ses limites en matière de dessin, il va se tourner surtout vers la rédaction de scénarios. Il va travailler pour la division Angleterre de Marvel. Et c'est en 1986 que va sortir Watchmen. Mais pourquoi s'attaquer aux super-héros ? Dans ses plus jeunes années, il développe une certaine attirance pour le mysticisme et les dieux. Des super-héros avant l'heure. Et c'est logiquement que des super-héros découverts dans les comics seront portés au même niveau que le panthéon des divinités. Mais pour Watchmen, son côté antisocial ressort. Et il veut en quelque sorte les faire tomber de leur piédestal. Pour cela, il va demander à Marvel Angleterre s'il peut utiliser des personnages du comics Charlton Comics. Mais Marvel refuse, histoire de ne pas se griller une cartouche s'il souhaite en faire quelque chose plus tard. Spoiler alert, mais ils n'en ont rien fait. Alan va donc devoir créer de toutes pièces une liste de personnages originaux. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc Watchmen, ça raconte quoi ? Nous sommes en 1985 dans une réalité parallèle. Cette réalité diverge de la nôtre aux environs du début du XXe siècle. Les changements qui nous intéressent commencent ici véritablement dans les années 30-40. À cette époque, apparaît une congrégation de justiciers, les Minutemen, en référence à une milice qui œuvrait pendant la guerre d'indépendance américaine. Ses membres combattent le crime sous des identités secrètes. Il y a le justicier masqué, Capitaine Metropolis, le hibou, le spectre soyeux, et j'en passe. L'âge d'or de cette équipe se passe dans les années 40. Le temps faisant son œuvre, ils sont remplacés, tués ou virés. C'est surtout la deuxième génération que l'on va retrouver dans Watchmen. Parce que oui, je n'ai toujours pas dit ce que ça raconte. Nous sommes donc en 1985, le 12 octobre pour être précis. Et ce soir, le comédien est mort. Le comédien, c'est son nom de justicier, faisait partie de la première génération des Minutemen. Mais vu qu'il a commencé jeune, il a en quelque sorte fait la liaison avec les nouveaux. Mais il n'était pas vraiment populaire. Violent, oui, comme les autres, vous me direz. Mais plus que de raison. Un sadique qui prenait son pied à voir les autres souffrir. Il était officiellement à la retraite, mais faisait des piges auprès des gouvernements américains et de la CIA. Un barbouze, pour être clair. Sa mort n'aura pas d'écho auprès du grand public, car les justiciers ne sont plus en activité, et ce depuis 1977. Date à laquelle sera signé un décret les forçant à dévoiler leur identité réelle. Les justiciers en activité vont mettre un terme à leur activité et se fondre dans l'anonymat, à l'exception d'un seul qui va dévoiler son vrai visage, mais j'y reviendrai plus tard. Un autre de ces justiciers ne va pas se conformer à la loi et va continuer à œuvrer dans l'illégalité. C'est un peu le personnage fil rouge du comics, celui qui va mener l'enquête pour trouver le meurtrier du comédien. Et ce justicier à la marge, c'est Rorschach. Oui, Rorschach, en référence au fameux test psychologique. Le test de Rorschach est une série de planches sur laquelle on peut voir des taches symétriques, mais qui ne représentent rien. C'est justement là l'intérêt du test. On demande à la personne testée de dire ce qu'elle voit dans ses taches, et on en déduit un profil psychologique. Dans la BD, Rorschach n'est pas un médecin qui utilise ce test pour défaire les bandits. On est même à l'autre bout du spectre. Pour ça, revenons un peu plus tôt à la jeunesse de notre personnage. Walter Kovacs, de son vrai nom, n'a pas une jeunesse heureuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est le fils d'une prostituée et le témoin du passage des clients de sa mère. Et cette dernière est pour le moins maltraitante. On a connu plus serein comme cadre éducatif. Il va se révéler d'un caractère violent et va vite être placé en institution. Il parvient à trouver un travail chez un tailleur. Il participe à l'élaboration d'une robe constituée d'un tissu au motif changeant inspiré du fameux test de Rorschach. Malheureusement, la cliente ne viendra jamais chercher sa robe. On va la retrouver assassinée chez elle. Cette tragédie va créer un point de bascule chez Walter. Il décide de devenir un justicier. En guise de masque, il va découper un morceau de la robe et se faire ainsi appeler Rorschach. Il va intégrer les Minutemen et fera surtout équipe avec le hibou, un autre des justiciers. Lui aussi, je vous en parle un peu plus tard. À la suite d'une enquête sur la disparition d'une petite fille, la personnalité de Rorschach va basculer, et pas dans le bon sens. Il va tomber dans une spirale de violence, violence qui sera dorénavant sa marque de fabrique. Il va en user et abuser pour arrêter les criminels qu'il va croiser. Pour le décrire, je parle d'un personnage et non d'un héros. Vous allez voir pourquoi, à la mentalité particulière. Il vole au secours de la veuve et de l'orphelin, et après il va savater le méchant. Quelle que soit la gravité de ce qui lui est reproché, il va lui mettre la misère. À partir du moment où vous avez franchi la ligne, pour lui, tous les moyens sont bons pour vous punir. Autre point, il vomit la société dans laquelle il vit. Il n'aime pas comment elle évolue. Il habite New York, mais considère cette ville comme une nouvelle Sodome. Pour résumer, on peut dire qu'on a affaire à un facho. C'est pour ça que je ne parle pas de héros. Le glorifier n'était pas le but d'Alan Moore, qui a des idées plutôt ancrées à l'autre bout de l'échiquier politique. C'est pour ça, bien que Rorschach soit l'enquêteur dans la BD, qu'il ne faut pas y voir un héros, mais plus un témoin. Rorschach, donc, croit qu'un tueur s'en prend aux anciens justiciers masqués. dans son enquête, il va rendre visite à ses anciens collègues. Il va commencer par le docteur Manhattan. Le docteur est le seul personnage disposant de super-pouvoirs. Et ce, à son corps défendant. Comme souvent avec les super-héros. Alors certains personnages se voient attribuer des pouvoirs par une morsure d'araignée mutante ou par exposition à des rayons gamma, autant le docteur Manhattan, lui, il a pris cher. Dans son cas, alors qu'il s'appelait encore Jonathan Osterman et travaillait comme scientifique dans un labo de recherche nucléaire, il est victime d'un accident et il est désintégré. Tout simplement. Mais tel le phénix, il va renaître sous une forme différente. Il est désormais un être quasi équivalent à un dieu. Omnipotent, il peut tout faire. Omniscient, il sait tout et peut même voir dans le futur. Ou plus exactement, il a un rapport différent d'une autre avec le déroulement du temps. Les notions de passé ou de futur n'existent plus, il n'expérimente que le présent. Tout se passe en même temps. À cela, on peut ajouter télékinésie, téléportation, ubiquité. Son nouveau nom est plus une démarche publicitaire. Docteur parce qu'il était scientifique avant, et Manhattan en référence au projet du même nom qui concernait la création de la première bombe atomique américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Mais s'il reste un scientifique dans l'âme, le gouvernement américain voit en lui une arme. Bah tiens, quelle surprise! Une arme qui permet aux États-Unis de garder la tête dans la guerre froide. Donc pour les plus jeunes, la guerre froide est une période qui s'est étalée de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'effondrement de l'URSS en 1991. Comme son nom l'indique, c'était une confrontation entre les blocs Est et Ouest, et plus précisément entre les États-Unis et l'URSS, qui cherchaient à régner sur le monde sans se faire directement la guerre. Ils faisaient appel à des sous-traitants, entre guillemets, pour élargir leur sphère d'influence et isoler leur ennemi. Personne n'était dupe. Si l'un des deux voulait mettre la main sur un pays, l'autre partie finançait et aidait matériellement la résistance pour faire capoter les plans de l'autre. L'exemple le plus parlant, c'est la guerre du Vietnam. Les États-Unis veulent y apporter la démocratie et les Russes financent le Viet Cong. Cette méthode, quelque peu discutable pour les pays concernés, doux euphémisme, était une sorte de palliatif pour les deux superpuissances. Ça a aussi permis d'éviter un affrontement direct qui aurait fatalement résulté en une apocalypse nucléaire mondiale. Affrontement nucléaire qui n'aurait vu aucun vainqueur sortir des décombres radioactifs. On appelait ça l'équilibre de la terreur, la stratégie de la destruction mutuelle assurée. Charmant. Mais alors, si on met le docteur Manhattan dans la boucle, la balance commence à pencher un peu et c'est présent dans toute la BD. La guerre froide y est à son paroxysme. L'horloge de l'apocalypse est sur minuit moins 5. L'horloge de l'apocalypse est un concept qui donne une idée du risque de guerre nucléaire, minuit étant le début de la guerre. Entre 1947 et aujourd'hui, l'horloge a oscillé entre 23h47 et 23h58. Au moment où j'écris ces lignes, elle est à 23h58 et 30 secondes. Et je vous souhaite une bonne journée. Donc, après cette digression aussi interminable que nécessaire pour contextualiser l'action de la BD, on retrouve Rorschach qui demande au Dr Manhattan si lui, il voit quelque chose au sujet de la mort du comédien. Or, le doc ne voit rien, faute à une émission massive de tachyon qui brouillerait sa vision temporelle. Émission du tachyon, éventuellement causée par une déflagration atomique. A noter que le docteur travaille pour le gouvernement comme le comédien après la dissolution du groupe des Minutemen. Il vit au sein d'un complexe de recherche atomique en compagnie d'une ancienne justicière, Laurie Juspezik, dit le spectre soyeux deuxième du nom. Elle a succédé à sa mère dans le costume de justicière, mais pas forcément par son goût de la justice, plus par contrainte maternelle. La fin de son activité clandestine a été un soulagement. Elle est en couple avec le docteur Manhattan, mais ce n'est plus la romance des premiers jours. D'autant que le doc, au fil du temps, perd de son humanité et de son attachement à la vie sur Terre. Lui, l'immortel, voit les autres changer et dépérir. Vu qu'il n'est plus contraint dans une existence précaire et relativement courte, son rapport avec le temps qui passe n'est plus le même. Le temps n'est plus un ennemi pour lui. Il n'a plus les mêmes priorités que la simple engeance humaine. Bref, on est en train de le perdre. C'est pour ça que son manque de visibilité du futur ne le perturbe pas plus que ça et qu'il ne montre pas le même entrain que Rorschach à résoudre l'enquête. Rorschach ensuite va rendre visite à Dan Dreiberg, autrefois connu sous le nom du Hibou, deuxième du nom. Le Hibou, on pourrait le comparer à Batman, un homme solitaire, à l'aise financièrement, qui a plein de super gadgets et qui combat le crime la nuit dans un costume inspiré d'un animal volant nocturne. À ceci près que Batman, en plus d'être charismatique, est partisan d'une certaine violence nécessaire. Tout l'opposé du Hibou. On a affaire à un super-héros, comment dire, gentil, voire sympa. Dans le civil, Dreiberg paraît effacé, presque apathique. Pour lui, la violence est une chose qui doit être utilisée avec parcimonie. On pourrait presque parler d'un boycott. Et il a du mal avec les méthodes du comédien. Étonnant. On se demande même comment il a pu faire équipe avec Rorschach à la grande époque. Et quand ce dernier vient le voir, Dan Dreiberg est sceptique.
Ou peut-être que quelqu'un s'en prend au héros costumé.
Tu fais pas un peu de parano ?
C'est ce qu'on dit de moi maintenant. Parano.
Tu peux raccrocher et mener une vie normale.
C'est ce que t'as aujourd'hui. Une vie normale, en marchant dans les rues d'une ville qui meurt de la rage, au milieu des cloportes humains qui parlent d'héroïne et de pornographie infantile. Tu te sens vraiment normal.
Je continue pas à me cacher derrière un masque, moi en tout cas.
Mais, par acquis de conscience, ils vont quand même rendre visite au dernier membre des Minutemen. Lui, il a profité du décret Kim qui a mis fin aux activités des justiciers. Quand on leur a demandé de donner leur véritable identité, lui, il l'a fait. Adrian Veidt, l'homme le plus intelligent du monde. Rien que ça. En sortant de l'anonymat, il a créé une gamme de figurines à l'image de son ancienne troupe et il a fait fortune avec. Il est pété de thunes. Il est exceptionnellement brillant, il a une haute idée de lui-même et a inventé des tas de trucs qui devraient améliorer la vie des gens. Bref, lui, c'est un peu Iron Man. Et Adrian, il y a quelqu'un qui va essayer de le tuer. Bon, ça va pas marcher, on n'a forcément aucune chance face à un homme de cette trempe. Mais cet incident va conforter Rorschach dans son idée. Quelqu'un veut tuer les justiciers masqués. Mais qui ? Et dans quel but ? La vengeance d'un criminel qui aurait croisé leur route, des concurrents aigris. Mais tant d'années après la fin de leur activité, c'est étrange. Le mystère est total. Et la confusion s'amplifie quand on apprend que le docteur Manhattan est parti sur Mars. Je ne vais pas m'apesantir sur les raisons de ce départ, mais il a des répercussions géopolitiques. Les soviétiques apprenant la nouvelle du départ du doc se sentent poussés des ailes. Et ils ont d'ailleurs envahi l'Afghanistan. Manhattan avait un rôle de parapluie anti-missile balistique. Ses capacités auraient probablement réduit à néant toute attaque nucléaire de masse contre les États-Unis. Une fois ce protecteur en route pour Mars, les États-Unis ne sont plus invincibles. Et le spectre d'une guerre atomique se fait plus présent encore. Il ne reste donc plus que Rorschach, le Hibou, Spectre Soyeux et Adrian Veidt. Des personnages certes volontaires mais aux capacités limitées. Qui ne pourront rien contre une volée de missiles. Et l'horloge de l'apocalypse qui s'approche lentement de minuit. Tic-tac, tic-tac. Je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire et vous laisse le plaisir de découvrir sa fin. Sachez toutefois que le livre en question est un beau bébé. Voilà le bruit qu'il fait quand il tombe sur une table. 440 pages d'une histoire fouillée et très riche. En plus du déroulement classique de l'intrigue, il y a des notes, des extraits de journaux et la liste de tous les Minutemen. Les personnages principaux ont le droit à une bio complète et à une description presque clinique de leur caractère. Une adaptation cinématographique réalisée par Zack Snyder verra le jour en 2009, bien avant qu'il ne s'attaque à l'univers DC Comics. Ce film n'est porté par aucune star, un peu à l'image de la BD. Aucun personnage prédominant, hormis le narrateur, aucun préjugé concernant telle actrice ou acteur, ou tel personnage que l'on aurait déjà vu autre part. Un casting vierge, entre guillemets, et qui fonctionne très bien. L'adaptation de la BD au film est pour le moins fidèle, quasiment plan par plan. Il y a quelques éléments en moins dans le film, mais ça ne nuit pas à l'histoire. Seule la fin est modifiée par rapport à la BD, mais là aussi, je vous laisserai la découvrir. En 2019, une série a également été produite. Elle se déroule 34 ans après la fin du livre, et là, une toute autre ambiance y règne. Nous sommes dans le sud des États-Unis et les Watchmen sont de nouveau autorisés. Le contexte, même s'il est dans la continuité de la BD, est un peu différent. Ici, plus de guerre froide, plus de menace soviétique. Ici, le problème, c'est le racisme. Une organisation de suprémacistes blancs, la 7e Cavalerie, semble avoir la main mise sur Tulsa et sa région. Ils se revendiquent de Rorschach et semblent préparer un attentat. La série de 9 épisodes de 60 minutes surprend dès les premiers moments. Mais les explications viennent à point pour ceux qui se montreront patients. Pour la petite histoire, Alan Moore n'a cautionné aucune de ces deux adaptations. Au sujet des adaptations de ses œuvres en général, il aura des mots assez durs. Ce sont des films idiots, sans la moindre qualité, une insulte à tous les réalisateurs qui ont fait du cinéma ce qu'il est. Des magiciens qui n'avaient pas besoin d'effets spéciaux et d'images informatiques pour suggérer l'invisible. Je refuse que mon nom serve à cautionner d'une quelconque manière ces entreprises obscènes, où l'on dépense l'équivalent du PNB d'un pays en voie de développement pour permettre à des ados ayant du mal à lire de passer 2 heures de leur vie blasée. La majorité de la production est minable, quel que soit le support, et il y a des films merdiques, des disques merdiques et des BD merdiques. La seule différence, c'est que si je fais une BD merdique, cela ne coûte pas 100 millions de dollars. Vous l'aurez compris, Moore n'est pas un fan de l'industrie du cinéma. Il aura pourtant été à l'origine de plusieurs films aux fortunes diverses. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Constantine, V pour Vendetta et Watchmen. Plongé dans une guerre froide qui n'en aura peut-être bientôt plus que le nom, Watchmen nous fait découvrir un aréopage de super-héros pas si super. Venu à cette activité pour des raisons plus ou moins obscures, il semble n'être qu'une bande de personnages pathétiquement déguisés. Si certains ont une éthique, d'autres ne sont là que pour assouvir une sorte de violence sous le couvert d'une pseudo-morale. Protéger la veuve et l'orphelin, tu parles. Ils semblent être les justiciers que mérite une ville de New York, sale, corrompue, violente. Où personne ne paraît totalement innocent ou vierge dans cette atmosphère suintante. Un monde au bord du chaos où certaines personnes un poil désabusées tentent quand même de sauver ce qui pourrait l'être. Ce monde dépeint par Alan Moore ne respire pas la joie de vivre. Il y a bien des points d'optimiste. Adrian Veidt, par exemple, se veut comme un bienfaiteur de l'humanité en remplaçant le pétrole par l'électricité comme énergie principale des transports de cette uchronie. Mais ça sent la fin de règne. Il y a quelque chose de pourri en son royaume. Et comme bien souvent, il faudra faire table rase. D'une manière brutale. Très brutale. Le feu rédempteur. Mal nécessaire ? À vous de choisir. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de « Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ». And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable
thinks that I am unforgettable too.